Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
Hisse la grande voile!
Politique, société.
Mais y'a pas de voile, abruti!
Culture.
Tu meurs si on dans 10 secondes!
Et même du sport.
Take that out. Four forward.
Tout le monde est à son poste ?
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'info de Radio Campus Angers.
En Suisse, la plupart des grandes décisions sociétales sont prises sous forme de votation des référendums helvétiques. On se souvient par exemple de cette votation interdisant la construction de nouveaux minarets en Suisse en 2009. En février dernier, c'est un référendum refusant l'immigration de masse qui a remporté son petit succès, restreignant ainsi l'accueil des étrangers. Et bien comme nous l'explique Isabelle Ray-Lefebvre sur lemonde.fr, l'atteinte à la libre circulation des personnes, pilier de la coopération européenne, a de facto sorti la Suisse du dispositif Erasmus+. Résultat, moins d'étudiants européens ont postulé pour venir séjourner en Suisse. Dans cet article, on peut lire la réaction de Marielle de Dardel, chef du service des relations internationales de l'Université de Fribourg. C'est vraiment dommage pour ces étudiants à qui nous offrons des conditions d'études luxueuses, avec des logements à disposition et des possibilités de stage. Mais la situation ne semble pas servir de leçon. Dans 12 jours, les Suisses sont appelés aux urnes pour une nouvelle votation intitulée EcoCop, écologie et population. Halte à la surpopulation, oui à la préservation durable des ressources naturelles.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Dans une deuxième partie d'émission, vous entendrez une interview de l'association Accès au cinéma invisible. Vous entendrez également la chronique Vigie de Pierre-Antoine et la chronique Sexo d'Aminata en fin d'émission. Mais d'abord...
L'Union européenne et les États-Unis préparent un accord de libre-échange, le TAFTA.
Le grand marché transatlantique cristallise l'opposition des eurosceptiques. Selon eux, TAFTA est synonyme d'opacité, de poulet au chlore ou encore de délocalisation de notre justice aux États-Unis.
Transatlantique. Eh ben oui, si on adopte le GMT, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des poulets à l'eau de Javel.
Il s'appelle TAFTA, TTIP, PTCI ou GMT, mais là on va l'appeler Partenariat de Libre-Échange Transatlantique. On en a beaucoup entendu parler au moment des élections européennes et il y en a que l'on entend et que l'on voit encore aujourd'hui. Ce sont des associations, des collectifs, des organisations qui disent non au traité transatlantique. Nous avons décidé ce soir de les entendre pour comprendre leurs inquiétudes et leurs revendications. Pour cela, nous avons ce soir en studio deux membres du collectif Stop TAFTA 49. Bonsoir Gabriel Thomas.
Bonsoir.
Vous faites partie de ce collectif. Et vous êtes également membre d'ATTAC.
Oui.
Également en studio, Catherine Barra, bonsoir.
Bonsoir.
Membre du collectif et de Nouvelle Donne, un jeune parti politique qui a un an, qui a été lancé par le socialiste Pierre Laroux-Turoux. Un petit mot sur Nouvelle Donne, peut-être pour le situer
Alors, pour le situer rapidement, c'est dans le champ de la gauche un peu hors Parti Socialiste. C'est un parti qui existe effectivement depuis un peu moins d'un an. Pierre Laroux-Turoux, économiste, avec trois grands chantiers, hein, et c'est important juste de les rappeler, et puis je ne vais pas monopoliser là-dessus, précarité, chômage, lutte contre le réchauffement climatique, et tout ça possible uniquement par une co-construction d'un parti pour faire de la politique autrement, avec les citoyens. Voilà.
Voilà, c'était pour c'était poser tout. Un petit peu le décor. Parlons de TAFTA. Le TAFTA, c'est donc un accord qui a commencé à être négocié entre les États-Unis et l'Union européenne à l'été 2013. Un accord qui vise à créer une zone de libre-échange de 14 millions de kilomètres carrés qui réunirait 800 millions de consommateurs, 40% du PIB mondial, un marché sans droit de douane et harmonisé en termes de barrières non tarifaires, c'est-à-dire tout ce qui concerne les normes et les quotas. Le collectif Stop TAFTA Angers est composé de plein d'organisations, donc ATTAC, Nouvelle Donne, Europe Écologie Les Verts, Mouvement de la Paix, NPA, Confédération Paysanne, Parti Communiste. On va peut-être pas tous les citer, il y en a beaucoup, mais on n'est pas obligé d'être de gauche pour être contre le TAFTA, puisque le Front National ou encore Nicolas Dupont-Aignan sont contre le TAFTA. Le PS, lui, se dit extrêmement réservé, entre guillemets, et appelle à ne pas se précipiter sans aller, pour autant, jusqu'à réclamer l'arrêt des discussions avec les États-Unis. De toute façon, François Hollande est pour l'accélération des discussions. Et puis l'UNP est a priori favorable au traité. Est-ce que on pourrait résumer les anti-TAFTA comme des eurosceptiques, comme on l'a entendu tout à l'heure, ou c'est aller trop vite ?
Bon, je pense que c'est aller un peu vite parce que de toute façon, on n'est pas hostile à l'Europe, mais à une autre Europe. Et sur ce traité transatlantique, on a maintenant un peu de recul vis-à-vis des traités qui sont mis en place dans d'autres sphères, en particulier l'ALENA, hein, qui regroupe le Mexique, les États-Unis et le Canada. Et le bilan que l'on peut faire après 10 ans de pratique au niveau de ces échanges commerciaux, et que le bilan est assez négatif, puisqu'il y a eu énormément de suppressions d'emplois aux États-Unis, des conditions de travail qui se sont dégradées au Mexique, des exploitations agricoles qui ont été supprimées face à la concurrence de l'agro-industrie américaine. Donc, pas eurosceptique, mais nous sommes favorables à une autre Europe, une Europe des peuples, et puis une Europe qui ne soit pas dépendante des gros lobbies industriels et financiers.
Alors, les pro-TTIP, parce que j'ai cru comprendre qu'on était contre le TAFTA, mais pro-TTIP, que les sigles changeaient suivant notre position, invoquent évidemment l'argument économique. Ils arguent que ce traité amènerait à de la croissance et de l'emploi. Il y a le chiffre d'un demi-point supplémentaire de PIB annuel qui est balancé par la Commission. C'est un argument que vous entendez, cet argument de croissance et d'emploi?
Oui, alors sur la question de la croissance et de l'emploi, je crois que les experts européens travaillent sur des modélisations de projets, hein, des modélisations informatiques, et je dirais que nous sommes assez sceptiques par rapport aux prévisions, parce que il suffit de regarder un petit peu ce qui s'est passé lorsque les accords de libre-échange se sont mis en place en Europe, hein, il y a une trentaine d'années, la France a perdu énormément d'emplois industriels, hein, pratiquement 2 500 000 emplois industriels entre 1989 et 2011. Et des filières entières ont été détruites, hein, le textile, l'électronique, l'industrie de la machine-outil, l'ameublement, etc. Donc, par rapport aux provisions de la Commission européenne, nous avons plus que des doutes.
Catherine Barra, sur ce sujet.
Alors moi, c'est sur le sujet économique, j'aurais rien à rajouter, effectivement. Puis la croissance n'est pas infinie, de toute manière. Donc c'est pas un argument qu'on peut forcément entendre aujourd'hui. Hein. On voit que c'est plus l'argument qui va faire que le progrès va se poursuivre. Mais on pourrait compléter par les aspects plus sur les champs environnementaux, où on parle beaucoup des gaz de schiste pour relancer la croissance, avec les aspects environnementaux qui vont être contrebalancés.
Qu'on évoquera tout à l'heure. L'une des critiques que font les anti-TAFTA, c'est le secret dans lequel se tiennent les négociations, secret justifié par les négociateurs, justement par le caractère stratégique des négociations. Mais début octobre, je ne sais pas si ça vous a rassuré, mais les représentants des États membres de l'Union européenne ont décidé de déclassifier le mandat de négociation sur lequel travaille la Commission, c'est-à-dire de le rendre public. Est-ce que ça vous a rassuré ou pas du tout? Est-ce que c'est suffisant?
Mais je pense que c'est une indication assez forte sur l'espèce de fébrilité dans laquelle travaille la Commission, parce que ça fait pratiquement 6 mois que l'on demandait la mise à disposition de l'accord et en français, et on a eu énormément de difficultés à l'obtenir, et en fait on l'a obtenu grâce à un rapport de force qui s'est manifesté à travers le pays, et non seulement à travers le pays, hein, sur toute l'Europe par rapport à cette question. Là, il y a une mobilisation spontanée qui aujourd'hui regroupe 900 000 signatures, hein, par rapport à ce traité, pour demander l'arrêt de ce traité. Donc je pense qu'effectivement, la Commission européenne a lâché prise, parce qu'elle sentait aussi qu'il y avait nécessité d'informer les citoyens, mais de manière extrêmement partielle, parce que lorsqu'on met sur la table un texte aussi complexe que ce traité, il faut un minimum d'explications pour que les citoyens lambda puissent s'en emparer, quoi.
Autre argument qui est souvent donné par les anti-traités transatlantiques, c'est le côté antidémocratique de ce traité-là. Pourtant, il sera voté à la fin par le Parlement européen, qui a été élu lui-même par les citoyens européens, et le Parlement qui peut mettre son droit de veto sur ce traité-là.
Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que la stratégie aujourd'hui, elle est en deux temps. On pourrait dire qu'il y a une stratégie en deux temps. La première étape, c'est d'arrêter dès maintenant les négociations. Ça supposerait une grosse mobilisation que l'on n'a pas forcément à ce jour. Et puis, on pense que tout n'est pas permis, tout n'est pas perdu, par contre, si effectivement le projet sera soumis à la Commission européenne. Il y a des élus à cette Commission européenne. On a commencé à les mobiliser, à les sensibiliser sur la question. In fine, ce sera les élus du peuple qui décideront, effectivement.
C'est facile de mobiliser sur cette question, justement ? Catherine Barrin.
Alors, le sujet semble complexe, mais encore une fois, il faut savoir où trouver l'information. Il faut être en capacité d'aller la lire, d'aller la décrypter. Et les quelques journaux grand public qui ont commencé à en parler restent encore assez rares. Je veux dire, les presses régionales n'en parlent absolument pas. Les presses écrites régionales, donc il faut aller sur des presses nationales. Tous les citoyens ne les lisent pas. Sur les télés, les télés classiques, on entend peu parler du TAFTA également. Donc non, c'est pas facile de mobiliser. C'est très difficile.
On va rentrer un petit peu dans le contenu du traité avec quelques points parmi lesquels la proposition de la suppression des droits de douane. Actuellement, les droits de douane sont déjà très faibles. En réalité, une moyenne de 5,2% pour l'Union européenne et 3,5% pour les États-Unis. Est-ce que ça changerait grand-chose de les supprimer ?
Alors, il y a un certain nombre de productions en Europe, de productions agricoles en particulier, qui sont soutenues par des droits de douane plus élevés au niveau de la viande, au niveau de l'agriculture au sens large. Donc ça pourrait avoir un impact effectivement. Mais je pense que l'impact principal est au niveau des barrières non tarifaires.
Les barrières non tarifaires, donc en fait, ça recouvre tout ce qui est normes, quotas,
voilà.
Actuellement.
Voilà, tout à fait. Et quand on parle de délit névocratique, je crois qu'on peut évoquer cette situation-là, parce que toute réglementation qui est décidée par un État pourrait être mise en cause parce que constituant un obstacle à la commercialisation d'un certain nombre de produits.
Pour être clair, ça veut dire que si on a des normes, par exemple sanitaires, qui sont appliquées en France, elles pourraient être mises de côté à cause du traité transatlantique, c'est
tout
ça
fait. Tout à fait.
Donc, avec des exemples précis, peut-être
ouais. Alors, des exemples précis peuvent être donnés. En France, il y a une grosse mobilisation citoyenne qui a permis de faire en sorte que le bisphénol A soit bientôt interdit dans les emballages alimentaires. Donc, c'est une initiative française. On peut très bien imaginer que demain, des fabricants de produits qui en contiendraient attaquent l'État français, parce qu'on ne laisse pas le marché ouvert. Des exemples comme ça, il peut y en avoir énormément, même sur les lois anti-tabac. Alors c'est sur un autre champ, hein, l'État australien qui a été attaqué par Philip Morris, sur ce même genre d'accord, hein, en fait. Puisque leur loi anti-tabac était trop rigide.
Parce que ce qu'il faut expliquer, c'est qu'également dans le traité transatlantique, il est question d'une mise en place de tribunaux indépendants capables de sanctionner les États si, par exemple, la France pourrait être sanctionnée financièrement si l'entreprise américaine était empêchée de faire de la libre concurrence dans son pays.
C'est exactement ça. Ouais.
Mais la France et l'Allemagne se sont prononcées contre cette partie-là du traité. Donc est-ce que finalement... ça va vraiment être mis en place, cette mise en place du tribunal.
Enfin, je ne sais pas, mais je m'imagine que les États-Unis vont faire une pression très très forte sur ce terrain-là, puisque ce type de tribunal privé existe déjà aux États-Unis. Et il est supplanté, enfin il est accompagné aux États-Unis d'un conseil de coopération réglementaire. C'est un dispositif qui vise à évaluer les législations avant leur mise en œuvre, de manière à voir si elles ne sont pas contraignantes pour les multinationales qui sont censées être visées. Donc c'est une fusée à deux étages, en fait. Donc je ne sais pas, après c'est une question de rapport de force au niveau de l'accord. Pour les États-Unis, c'est un enjeu extrêmement important. Hein. Donc, le marché européen représente pour eux un enjeu très très fort.
Il faut qu'on reste très très vigilant. C'est clair qu'il faut vraiment que les citoyens français aient conscience qu'en en France et maintenant en Europe, on a une réglementation sur les risques sanitaires qui est en avance par rapport à la réglementation américaine. Hein. Et des exemples précis, on pourrait en donner. Si on parle juste de quelque chose qui nous a touché d'assez près dans la région, c'est l'amiante. Chez nous, c'est interdit depuis 1997, hein, l'utilisation. Aux États-Unis et au Canada, c'était 2011. Hein. Donc, il y a quand même une différence de prise en compte de ces problématiques environnementales et sanitaires. Les gaz de schiste, on parle beaucoup des gaz de schiste aux États-Unis et au Canada. L'aspect environnemental et sanitaire est absolument pas pris en compte, hein, et les dégâts commencent à se voir. Il suffirait qu'en France, les moratoires en Europe soient attaqués justement parce que des entreprises privées puissent attaquer les États européens pour que ça se fasse. Alors, on n'est pas catastrophiste. Hein. C'est juste qu'il faut prendre en compte ces risques qui pourraient arriver et rester très vigilant. Et cela, c'est possible que par des mobilisations citoyennes et des prises de conscience.
On ne pourrait pas imaginer que la norme choisie soit la norme la plus protectrice. Étant donné que c'est une mise à niveau des normes européennes et américaines, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que ce soit la norme la plus protectrice?
Ça serait l'idéal, effectivement. Oui. Ça serait bien, oui.
Mais est-ce que vous savez si... On ne sait pas, en fait.
On ne sait pas, alors.
Non, parce que, de toute façon, personnellement, je n'ai pas trop de doutes, parce que la norme la plus protectrice sera un impact énorme aux États-Unis sur la commercialisation, sur les coûts de fabrication de leurs produits. Parce que, in fine, c'est ce qui intéresse les multinationales. C'est ce qu'elles vont pouvoir verser comme dividende à leurs actionnaires. Donc, si on hausse les normes environnementales ou les normes sociales, c'est complètement contradictoire avec le projet global qui vise justement à les baisser, ces normes sociales.
Tout à fait. Donc, il y a un exemple que je viens de trouver dans la presse, hein, c'est sur le site de Mediapart le 11 octobre 2014. Donc, je peux le donner, c'est un exemple qui parle bien. Donc, le 6 octobre dernier, la Commission européenne a renoncé dans la mise en œuvre de la directive sur la qualité des carburants à faire du pétrole issu des sables bitumineux un carburant hautement polluant. Et ça, c'est dans le cadre de l'accord Europe-Canada. Donc, c'est bien sous la pression de l'État canadien que la norme en fait de pollution d'introduction des pétroles issus des gaz bitumineux des sables bitumineux est passée. Donc là évidemment on se cale pas sur le mieux disant mais sur le moins disant, et ça c'est aujourd'hui alors qu'on connaît les effets et on est dans une espèce de politique dite de transition énergétique et on passe au-delà néanmoins.
Donc en fait, vous êtes carrément pessimiste. Il faut rappeler juste que l'accord Europe-Canada, c'est un peu la muscule, en fait.
C'est ça.
Oui, tout à fait, c'est la mise en bouche.
C'est la mise en bouche, oui.
En fait, est-ce que vous... On ne peut pas ouvrir nos frontières? C'est ça que vous... Enfin, c'est difficile d'ouvrir nos frontières?
C'est pas la question des frontières. Je crois que c'est la question de quel monde on veut. Quel monde on veut? Est-ce qu'on veut un monde qui soit aligné sur le mieux-disant? Ou bien est-ce qu'on veut un monde avec le 1% qui amasse des fortunes et les 99% qui galèrent à côté, quoi? Je crois que les Américains occupés Wall Street ont bien senti cela. Et dans ce type de projet, on sent bien que tout est fait pour les multinationales. On a déjà un exemple en Europe sur les multinationales. Sur les multinationales qui sont implantées en France et dans différents pays européens, on voit bien comment ça fonctionne, où les entreprises jouent sur une fiscalité différente, vont placer leur siège social dans des pays où la fiscalité est très faible et où ils peuvent mettre leurs profits de ce côté-là. Et puis dans les pays où la fiscalité est un peu plus importante, ils sont à l'équilibre, voire en déficit. Donc c'est ce que nous promet le traité, en fait. Il suffit juste d'élargir le périmètre, quoi.
La région s'est déjà prononcée contre la poursuite des discussions TAFTA. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous fait vous dire que ça avance dans le bon sens? Est-ce que c'est une lueur d'espoir pour vous,
oui.
Collectif Stop TAFTA?
Oui, alors l'idée maintenant, c'est effectivement que le plus en plus de territoires sur notre État français se déclare hors TAFTA, et donc ça peut toucher et les régions, les départements. On parle beaucoup des départements actuellement, mais ils ont aussi un rôle à y jouer, hein, puisqu'il y a des marchés qui sont passés avec les collectivités locales et territoriales, et également les communes. Donc l'idée de notre collectif Stop TAFTA 49 est de toucher un maximum de communes, de les informer et de faire réagir les élus sur la possibilité de se déclarer hors TAFTA, mais de manière symbolique. Effectivement, de relier ça par voie de presse, de façon à ce que les citoyens, en fait, ce qu'on veut, c'est que les citoyens prennent conscience que ça va toucher également leur quotidien dans leur commune.
Donc mener l'action commune par commune là dans les mois qui viennent.
Voilà, tout à fait. Donc l'idée, c'est de, comme on le disait tout à l'heure, de sortir un peu de l'entre-soi et d'aller plus largement auprès des habitants, quoi. Et les habitants, on les touche par l'intermédiaire des élus. Donc l'idée, c'est qu'il y ait des débats, qu'il y ait des échanges, éventuellement des échanges contradictoires, de façon à ce que les gens prennent bien conscience de l'enjeu énorme que constitue ce grand marché transatlantique.
Je pense qu'en fait, il faut voir plus loin. C'est qu'en ce moment, on voit que ça bouge énormément. Il y a énormément de collectifs qui se créent un peu partout. Il y a encore eu un film assez remarquable, là, il y a 15 jours sur Arte, Marie-Monique Robin avec le film Sacré Croissance. On voit que tout ça, en fait, ça va dans le même sens. Il y a le mouvement des colibris, il y a énormément de mouvements de citoyens. Et tous ces citoyens, en fait, mis bout à bout, au final, quand on fait la somme, je pense que cette somme de personnes peut faire bouger. Parce qu'en fait, on peut basculer d'un système à un autre. On est entre deux systèmes en ce moment. Et nous, on en a conscience parce que c'est vrai qu'on réfléchit beaucoup à toutes ces questions. Mais il faut qu'un maximum de citoyens se disent, nous aussi, on a le pouvoir de faire changer les choses.
Quelles actions vous menez là dans les semaines à venir, justement pour que les citoyens puissent s'imprégner de votre bataille? Est-ce qu'il y a des dates à retenir dans les semaines à venir ou pas?
Alors, des dates à venir, donc ça, on a un collectif va se mettre en place sur Saumur, par exemple. Il y a une rencontre qui est prévue le 3 décembre à la MJC de Saumur. Ensuite, je pense qu'on va faire venir une pièce de théâtre. Là, il y a un comédien itinérant qui fait le tour de France anti-TAFTA. Donc, il sera sur Angers, mais on n'a pas de date à préciser. Et je pense qu'on aura un débat contradictoire avec Roule-Marc Génard, là, qui a beaucoup travaillé sur là-dessus. Et l'idée, c'est d'avoir un opposant et d'avoir un échange là-dessus.
Pour enfin s'imprégner de cette question-là.
Voilà, tout à fait.
Assez difficile à digérer. Merci beaucoup Gabriel Thomas et Catherine Barra d'avoir été sur Radio Campus Angers ce soir pour le collectif Stop TAFTA.
Merci de nous avoir invités.
C'était Diroff avec Last Fade.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Nous sommes mardi, il est 19h25, c'est l'heure de retrouver Pierre-Antoine qui décortique les chiffres et passe à la moulinette les propos de nos hommes politiques. Salut Pierre-Antoine.
Salut.
Hervé Mariton était l'invité de Tous Politiques sur France Inter avant-hier dimanche. Le député de la Drôme est candidat pour l'élection à la présidence de l'UMP le 29 novembre prochain.
Et celui qui s'est fait connaître lors des débats sur le mariage pour tous en a profité pour revenir sur sa vision de la famille. Une famille composée d'un papa et d'une maman, bien sûr. D'ailleurs, les chiffres le montrent.
En France, c'est un chiffre peu intuitif, mais c'est la réalité des choses. 75% des enfants vivent avec leurs deux parents. La famille classique est solide. Je l'ai partagée hier avec les militants de Sens Commun. Elle est moins abîmée que beaucoup ne le disent, même si elle est beaucoup plus en danger que beaucoup ne le pensent.
Alors Pierre-Antoine, d'où viennent ces chiffres ?
En cherchant un peu, on retrouve ces fameux 75% sur le très sérieux site de l'INSEE, l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques. En 2006, la France comptait plus de 10 millions d'enfants de moins de 17 ans vivant chez leurs deux parents, sur une population totale d'environ 13,5 millions. Toujours selon l'INSEE, entre 2004 et 2008, 75,4% des petits Français vivaient donc chez papa-maman.
Hervé Mariton a donc raison.
Sur le papier, il semblerait bien que le modèle prôné par Hervé Mariton est largement majoritaire. Seulement, enfin, façon de parler, 2 240 000 enfants vivent dans une famille homoparentale. À ceux-ci viennent s'ajouter les familles recomposées, où l'enfant vit avec un beau-parent. Ils sont 780 000 dans ce cas entre 2004 et 2008. Mais la famille à laquelle est attaché M. Mariton, c'est-à-dire la famille classique, selon ses termes, semble plus mal en point qu'elle en a l'air. Dans des chiffres plus récents, l'INSEE remet en doute cette analyse. En 2004, 9% des enfants vivaient dans ces familles recomposées, soit 1,2 million. En 2011, ils sont 1,5. Certes, 540 000 d'entre eux vivent avec leurs parents, mais dans des familles recomposées, c'est-à-dire que leurs parents ont déjà eu d'autres enfants avec un autre partenaire avant de se rencontrer. Sûrement pas la famille parfaite pour Hervé Mariton. L'étude de l'INSEE permet également de montrer de fortes disparités selon les territoires. À Paris, seulement 7% des enfants vivent dans des familles recomposées.
Un bon point pour la famille dite traditionnelle alors.
Eh bien non, puisque 25% des enfants parisiens ne vivent qu'avec un seul de leurs parents, soit quand même 115 000 personnes.
Mais Hervé Mariton a raison de dire que cette vision de la famille est en perte de vitesse.
En effet, on le sait, les couples ne restent plus forcément ensemble à vie, et ce même s'ils ont des enfants. Dans la synthèse du rapport sur les ruptures familiales, publié en avril dernier, le Haut Conseil de la Famille fait état de 350 000 ruptures par an, un couple sur deux ayant des enfants à charge, une tendance qui ne date pas d'hier, puisqu'une proposition de loi portant sur la réforme du divorce et datant de 2002 indiquait déjà que presque un mariage sur trois se soldait par un divorce. Hervé Mariton, si choqué par le mariage gay et les familles homoparentales, on se souvient qu'il avait déposé une proposition de loi pour interdire l'adoption aux célibataires, ne semble pas l'être pour tout, rappelant que son amie Christine Boutin, fondatrice du Parti chrétien démocrate affiliée à l'UMP, est mariée à son cousin Germain, mais c'est sans doute beaucoup moins contre nature.
Merci Pierre-Antoine. Il dépoussière des films méconnus mais qui méritent d'être vus. Accès au cinéma invisible, une association nantaise œuvre depuis 8 ans et ils seront demain à Angers.
Nous sommes en compagnie d'Alexis Thébaudot, coordinateur de l'association Accès au cinéma invisible, association créée en 2006 et qui effectue, en quelque sorte, un travail de mémoire sur des films oubliés. Alors, je voulais vous poser la question, d'où vous est venue cette idée ? Est-ce que vous en aviez marre de ne pas avoir accès à des perles du 7e art ?
Ben exactement, oui, c'est ça. En fait, à force de... force de regarder ce qui sortait en salle en France, à Nantes plus précisément, puisqu'on est une asso nantaise à la base, on s'est rendu compte qu'on avait quand même beaucoup de chance là où on était, et puis même en France d'une manière générale, au niveau du nombre de sorties qui est disponible toutes les semaines pour les spectateurs. C'est-à-dire qu'on peut voir effectivement des films qui viennent d'un petit peu partout, on a quand même un choix très très large. Cependant, grâce à Internet, on se rend compte aussi, en plus des films qui sortent, on se rend compte des films qui existent mais qui ne sortent pas. Et du coup, bah, l'idée, elle vient de là, c'est-à-dire on a créé l'asso pour pouvoir trouver un moyen de parler de ces films et de les montrer au public, des films qui passent au travers des mailles de la distribution, c'est-à-dire qui ne sortent peut-être pas en salle en France, ou alors qui ne sortent que dans quelques salles et pas dans la ville qui nous intéresse, Nantes ou Angers en l'occurrence. Ça, c'est pour les films récents. Puis après, il y a un autre aspect, c'est effectivement plus de mémoire, à savoir donc des films qui passent au travers, cette fois-ci, des mailles de la cinéphilie. On a des films dont les gens ne parlent plus, mais qui sont pourtant des films intéressants, des films qui ne sont plus disponibles en DVD, qu'il faut retrouver, etc.
Alors, vous indiquez que vous utilisiez Internet pour effectuer des recherches. Est-ce que vous avez d'autres moyens pour prendre connaissance de ces films que personne ne connaît ?
Ben non.
D'accord.
C'est-à-dire Internet, je pense... Quand je dis Internet, je pense à des sites qui sont des bases de données comme IMDB, Internet Movie Database, qui est un site assez ancien déjà. Je crois qu'il a presque 25 ans. Donc ça paraît fou, puisque en 1990, je ne sais pas trop qui avait Internet, mais le site existait déjà. C'est juste un site qui répertorie en fait les fiches techniques des films, qui a fait quoi sur tel film, et puis c'est tout. Donc c'est comme ça assez austère, mais en fait c'est un outil de travail vraiment assez incroyable, puisque en fait nous, en tant que cinéphiles dans l'association, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois qu'on regarde un film, ensuite on va voir sur ce site les filmographies de toutes les personnes qui ont participé à ce film. Et c'est comme ça, par des sauts de puce, qu'on commence à s'intéresser à des films, qu'on se rend compte qu'il y en a certains qui sont vraiment méconnus, alors que les acteurs par exemple ou les réalisateurs le sont. C'est le cas par exemple d'un film assez récent qu'on a projeté, c'était en octobre. Le film s'appelait Enemy of the People, donc adapté d'une pièce du même nom, Un ennemi du peuple, de Erik Ibsen. Et c'est un film avec Steve McQueen. C'est l'un de ses derniers, donc à une époque où il était véritablement une grande star, l'une des très grandes stars d'Hollywood. Et ce film était introuvable nulle part. Il est même en fait jamais sorti à l'époque en salle. Et donc, à force justement de regarder des films de Steve McQueen, on se rend compte qu'il y a ce film-là qui ressort, puisque bah, personne n'a pu le voir. Donc on l'a cherché et on l'a projeté.
Ces films, vous les sélectionnez en fonction de l'actualité ou encore de vos envies peut-être ?
Ah oui, non, de nos envies. Ouais. De l'actualité, non, pas spécialement. Parfois, c'est des... Parfois, notre programmation répond à des... sorte de commande. Par exemple, lorsqu'on fait des projections dans des salles qui sont plus dédiées à la musique, on essaie de projeter des films qui parlent de musique.
Dans le cadre de thématiques particulières.
Voilà, mais c'est à peu près tout. Sinon, l'idée est de projeter des films qui viennent d'un peu partout, de n'importe quelle époque, peu importe l'ambition ou le style du film. L'important, c'est qu'il soit visible et de qualité.
Votre action promeut un cinéma étranger, inaccessible en France. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de programmation de films français ou encore francophones ?
Alors on l'a fait, on a projeté quelques films français, mais le fait est que, puisqu'on est en France, les films français sortent quand même plutôt bien. Il existe quand même des films français invisibles, mais les films français invisibles qui passent entre les mailles de la distribution, c'est quelque chose qui est assez rare. Par contre, il existe des films plus anciens qui sont plus disponibles et dont plus personne ne parle. Le premier film qu'on avait passé, c'était déjà il y a 4 ans maintenant. C'est un film qui s'appelle Comme la Lune, réalisé par Joël Seria, avec Jean-Pierre Mariel. Donc, c'est la même équipe, en fait, du film Les Galettes de Pont-Aven. Et ce film-là, Comme la Lune, est toujours resté dans l'ombre des galettes. Et c'était l'occasion de le présenter. Mais c'est vrai qu'on n'en fait pas beaucoup. On propose assez peu de films français. Tout simplement, c'est dû à notre situation.
Quelle démarche vous devez effectuer pour récupérer les bobines, les droits, pour diffuser les films après ? Est-ce que vous rencontrez des difficultés particulières ?
Ah oui, des fois, oui. Alors en fait, les projections qu'on propose se déroulent dans des salles qui ne sont pas des cinémas. Les projections sont donc gratuites et à partir de formats vidéo, c'est-à-dire DVD ou Blu-ray au mieux. Donc pour pouvoir projeter un film, il faut quand même qu'il existe en DVD ou en Blu-ray dans notre zone. Vous savez, les DVD sont zonés, les Blu-ray aussi. Donc il faut qu'il soit sorti en Europe. Pas forcément en France, mais au moins en Europe. Et à partir de là, donc on déniche ce DVD, cette copie. Et puis pour les sous-titres, c'est un autre problème. On est parfois obligé de les faire nous-mêmes.
Il y a combien de temps en général qui s'écoule entre la découverte du film en question et sa diffusion finale ?
Ça dépend. Ça dépend largement de... parce qu'une fois qu'on a trouvé cette copie, on peut envisager donc une projection. Ensuite, la deuxième partie, c'est de retrouver qui possède les droits de diffusion du film. Et ça peut être plus compliqué. Pour des films qui sont relativement récents, c'est assez simple. On peut contacter les distributeurs ou les producteurs. Ensuite, il faut qu'ils acceptent. Ensuite, il faut qu'ils nous proposent un tarif qui soit... correct, c'est-à-dire qu'on n'a pas un budget monstrueux, et parfois ça prend énormément de temps. Il y a un film là qu'on a passé l'année dernière, où entre le moment où on a vu le film et donc on a décidé de le passer et celui où on l'a effectivement passé, il s'est écoulé plus d'un an. Plus d'un an dédié à des recherches de droit, à des attentes de réponse, à des relances.
On peut lire aussi sur votre Tumblr que vous effectuez des traductions de films. Qui s'en charge? Combien de personnes sont chargées de ce travail?
On participe tous plus ou moins dans l'association.
Vous êtes nombreux au sein de l'équipe?
Ouais, on est entre 15 et 20 membres actifs.
Vous exercez des activités à côté?
Oui, il y a quand même pas mal d'étudiants, puis sinon il y a d'autres types de professions dans l'association. Il y a enseignants, plombiers, un petit peu tout, quoi.
En avril 2008, vous avez créé une première édition du Festival du film d'Europe centrale à Nantes. Vous estimiez que le cinéma de cette région était méconnu?
Oui, particulièrement. C'est la première action qu'on a menée, ce Festival du film d'Europe centrale. On n'a pas pu le refaire depuis pour des raisons techniques, de temps, et puis des raisons de géographiques aussi, puisqu'on avait passé, on est plusieurs membres de l'asso, les membres fondateurs, on avait passé quand même du temps en République tchèque, donc ça nous a permis de retrouver ces films, justement, d'y avoir accès. Mais le cinéma d'Europe centrale, c'est un cinéma qui est particulièrement invisible en France. Et du coup, le problème est qu'on n'est pas sur place depuis et on a un petit peu plus de mal à trouver ces films. Ou au moins déjà à en entendre parler.
En 2010, vous avez également lancé le cycle des films oubliés, qui consiste en la projection gratuite de films méconnus, ce qui se rapproche sensiblement de votre activité actuelle. Ça se passait où, en l'occurrence, ce cycle? Et à qui est-ce que c'était destiné?
Le cycle, il continue encore aujourd'hui, hein. C'est notre programmation régulière, notre action principale. Ça consiste, enfin, la forme a varié, mais aujourd'hui elle est fixée. On fait une projection par mois sur le territoire du campus de l'Université de Nantes et une autre ailleurs, dans un autre lieu culturel de Nantes qui change tous les mois. Donc ça peut être le Pollen, ça peut être la médiathèque, ça peut être un bar. Et du coup, c'est ouvert à tous et les projections sont gratuites. Et puis depuis l'année dernière, on fait également des projections dans d'autres villes, notamment Angers. Et puis on en a fait également une à Saumur, et cette année on va essayer d'aller à Saint-Nazaire et à La Roche-sur-Yon.
Est-ce que l'association envisage de nouveaux projets au-delà des projections? Je pensais notamment à de l'archivage, par exemple.
Nous, on archive les films qu'on passe. Après, pour pouvoir les mettre à disposition, ça devient beaucoup plus compliqué au niveau des droits. Par contre, on aimerait pouvoir réfléchir à quelque chose de plus pour ce qui est de la proposition de ces films invisibles, mais c'est des projets qui sont assez compliqués. Il y a absolument rien de fait. Non, mais on a réfléchi quand même à des idées de création de DVD ou de VOD. Et c'est quand même un tout autre problème.
On rappelle que l'association Accès au cinéma invisible sera sur Angers demain pour la diffusion du film Yesterday's Enemy, en version originale sous-titrée français. Vous avez rendez-vous à la salle de la Passerelle sur le campus de Belbeil. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce film?
Oui, alors ce film, donc Yesterday's Enemy, c'est le titre original anglais. Il est sorti en France en 1959 sous le titre français de Section d'assaut sur le Sitang. Et on s'est dit qu'on allait garder le titre original. Ce sera un choix. Et c'est un film qui avait quand même vraiment beaucoup fait parler de lui à l'époque, puisque 59, donc la Seconde Guerre mondiale était terminée depuis pas très très longtemps, et les esprits étaient encore assez nerveux face à ce conflit, forcément, que les gens du public avaient connu largement, ce qui fait que ce film, adapté d'une pièce, remettant en cause l'héroïsme en combat et surtout de poser la question de quelle est la limite dans ce que l'on peut faire pour l'effort de guerre, à partir de quand c'est justement pour l'effort de guerre et à partir de quand ça devient un crime de guerre.
C'est un film qui est plus cru que Full Metal Jacket, par exemple?
Plus cru, je sais pas, plus littéraire également, c'est quand même tiré d'une pièce. Full Metal Jacket, c'est Kubrick, c'est très très visuel. Par contre, ce qui est intéressant, c'est justement presque une âpreté des décors, puisque c'est tourné dans des décors de jungle birmane, mais avec très peu de personnages, et l'action est très concentrée. Le film dure pas très longtemps, il dure 1h20, et ça va droit au but directement, quoi. Ce qui est intéressant avec ce film, c'est que c'est pour ça aussi qu'on a voulu le proposer, c'est que c'est un moment important dans le cinéma britannique. C'est produit par les studios Hammer, qui par la suite se spécialiseront dans le film d'horreur, mais pas encore à l'époque. C'est avec aussi des acteurs connus de l'époque, mais qui ne le sont plus aujourd'hui. Il y a Stanley Baker, il y a Gordon Jackson. Et puis, ça vaut le coup, puisque à chaque fois qu'on fait une projection, on propose une petite présentation du film avant pour remettre le film dans son contexte. Donc, c'est ce qu'on fera demain, enfin, c'est ce qu'on fera lors de la projection, qui permettra au public de peut-être profiter plus pleinement de l'expérience.
Je rappelle aussi que la projection est gratuite, qu'elle commence à 20h et qu'elle sera précédée d'un quiz pizza à la cité universitaire La Canale. À quelle heure peut-on arriver pour ce quiz? En quoi ça consiste et quelle sorte de pizza on pourra manger sur place?
Il y aura plusieurs pizzas différentes qui seront pour tous, hein. C'est pas ça qu'on fait gagner, les pizzas. On fera gagner quelques cadeaux comme des badges de l'association. Et les quiz eux-mêmes, ce seront des quiz sur le cinéma. Alors, pas uniquement le cinéma invisible, parce que c'est un petit peu difficile, mais sur le cinéma en général, histoire donc de faire vivre un petit peu la cité universitaire avant la projection. Et il faut y aller, donc c'est à partir de 18h30.
Merci Alexis Thébaudot pour votre participation.
Merci à vous.
Et vous l'avez entendu, c'est Thomas qui a passé ce coup de téléphone. L'association Accès au cinéma invisible sera donc demain sur Angers pour la diffusion du film Yesterday's Enemy. Rendez-vous à la passerelle sur le campus de Belle-Baye. La projection est gratuite, elle commence à 20h et sera précédée, vous l'avez entendu, d'un quiz pizza à la cité universitaire La Canale. Tout de suite, voici Johnny Osborne, Sing Jay Stiley.
What's your plan, Mr. Music Man? Me have rubber dub and me have soul one. We play for Naughty Dread and we play for Soul Man. We play sweet music to please everyone, because you love all me music. Me say you love all me music. What kind of style you really gonna play? Say what kind of style are you really gonna play? A rubber dub style. Lee, Lee, a lily, 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 say rubber dub styley. Lee, Lee, a lily, 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 say rubber dub styley. And this a Sing Jay styley. And this a Sing Jay styley.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Et on retrouve Aminata et sa chronique sexo.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Oh, cette petite virgule qui passe. Salut Aminata.
Salut Tiffany.
Aujourd'hui, nous allons donc parler d'un acte sexuel sur lequel on a mis un mot, la bifle.
La bifle, c'est la contraction du mot bite et du mot gifle. Le principe est donc de gifler son ou sa partenaire avec son pénis. Alors, pour avoir un peu plus d'informations, je suis allée faire quelques recherches sur notre ami à tous, Google. La première page, c'est Allociné qui décrit un court-métrage, La Bifle, réalisé par Jean-Baptiste Sorel. Ok, on est légèrement hors sujet. Mais le deuxième site risque de vous passionner. Si vous voulez devenir le Zlatan de la bifle, ce site est fait pour vous. www.labifle.com vous apprend comment bifler son ou sa partenaire et surtout quelle bifle faire en fonction des circonstances et de la température sexuelle ambiante. Oui, ok, comme vous l'avez deviné, la bifle est devenue un art. Pour votre information personnelle, la bifle câline consiste par exemple à mettre un petit coup de bifle sur le flanc de sa partenaire pour lui donner un peu d'entrain. Oui, en fait, c'est au cas où elle aurait perdu le rythme. La bifle est en fait le signe d'une sexualité plus décomplexée, qui évolue avec les générations.
On pourrait donc croire que c'est une pratique courante maintenant.
Alors il faut savoir que le mot bifle est très récent en fait. Sur une courbe réalisée par Google Trends et publiée par Rue69, on voit que le mot a été tapé à travers tous les pays sur le moteur de recherche depuis seulement 2009. Il a ensuite atteint son apogée en 2011. Et selon un sondage IFOP intitulé « Le sexe 2.0 » publié en 2013, 36% des jeunes entre 15 et 24 ans ont déjà pratiqué la bifle. Mais lorsqu'on regarde un peu plus près la question posée par l'Institut français d'opinion publique, on se rend compte qu'il y a un net décalage. La question était en fait « Avez-vous déjà caressé ou frotté la joue de votre partenaire avec votre sexe ?» Avouez que c'est quand même différent de la claque que décrit la bifle.
Les films porno influencent-ils les pratiques des jeunes, Aminata ?
Le sexologue Dr Jarnoux nous répond.
Ça amène sûrement des incompréhensions ou, comment dire, des problèmes de modélisation qui ne correspondent pas à la réalité, parce que la pornographie, ça n'a jamais été la réalité de la sexualité. C'est une sexualité déformée. Et la difficulté, c'est que si quelqu'un prend ça comme modèle, forcément, il va s'exposer à des déboires. Donc ça amène effectivement des déboires. Si les garçons, par exemple, modélisent la sexualité féminine telle qu'elle est présentée dans les films pornographiques, c'est sûr que là, ça ne va pas très très bien se passer au niveau relationnel. Et vice-versa aussi. Je veux dire, si les filles essayent de s'adapter à ce qui est présenté dans les films pornographiques, ça va induire des comportements qui ne vont pas être forcément très valorisants et très positifs.
Les jeunes ont tendance à reproduire les scènes qu'ils voient dans les films X. Ils peuvent penser que tout est acceptable. Dans un sens, oui, mais tant qu'il y a le consentement des deux personnes. Leur éducation sexuelle et apprentissage peut se faire via ces vidéos. Elles représentent souvent la conquête masculine et la soumission féminine, comme l'éjaculation faciale, la fessée ou encore les gangbangs, qui sont très rarement à majorité de femmes. Cette pratique divise. Dans un article des Arocs, Marilyn Baldeck s'exprime. Pour cette femme déléguée générale de l'Association européenne contre les violences, ce geste est une agression. Au contraire, pour l'ancienne actrice porno Coralie Tintri, c'est une preuve des crispations françaises liées au sexe. La féminine Maya Mazorette veut, elle, de nouveaux modèles d'érotisme égalitaire. Entre désir d'humiliation ou simple blague, la bifle est une action plus discutée que pratiquée. Biflement vôtre.
Merci Aminata. Pour la perne de ce soir, direction la Doutre et l'éternel bœuf blues du Téroc Coco à partir de 21h. Le Téroc Coco ou Radio Campus Angers posera ses micros un vendredi par mois à partir du 28 novembre. Un mot aussi sur la semaine pro organisée par l'Université d'Angers avec des conférences professionnelles dont demain à 18h à l'IUT, les recettes d'une réussite internationale ou alors demain à 18h à la Faculté des Sciences, l'innovation au service du développement durable. Notez aussi qu'un forum des entreprises se tiendra vendredi au centre des congrès. 2000 étudiants sont attendus sur cet événement. On termine cette émission avec l'éternel bulle sonore. Hier soir, c'était la première de Galette Party, une nouvelle émission en direct du disquaire Home Wax, animée par Étienne. Au menu, des passionnés de vinyle causent de leur trouvaille. Et c'est Martin qui entamait hier soir.
On a fait un petit brainstorming avant, on a ramené des galettes, et puis on va direct commencer par passer... Première galette, Martin, c'est toi qui as choisi ?
Exactement, petite sortie ultra private, ultra limitée, c'est-à-dire c'est la BO d'Utopia, qui a mis du temps à sortir Cristian Baltapia des Verts, qui est le compositeur de la série. C'est-à-dire qu'il a fait une composition en direct, c'est-à-dire qu'il a eu les images et qu'il composait en direct en visionnant les images de la série. Et il a mis du temps pour déjà sortir le CD et ensuite presser le vinyle, c'est-à-dire qu'il a fait un mixage totalement différent en incorporant beaucoup plus d'idées personnelles, de nouveaux morceaux même. Et il a permis aussi de montrer, c'est-à-dire que sur le gatefold de la galette, il nous explique qu'il est allé chercher des instruments au Pérou, je crois, il me semble, à partir d'ossements humains pour créer des sons spécifiques pour la série. Donc ça crée une galette super étrange. Enfin, ça met en fait compte en abîme tout ce que l'aspect de la série qui est très très étrange
en chef d'orchestre total quoi.
Ouais, c'est ça, exactement. Et en plus, on a le plaisir d'avoir une galette toute jaune et c'est magnifique.
Et c'est magnifique. Vous pouvez réécouter la totalité du programme sur le www.radiocampusangers.com et dans un instant, dès 20h, vous retrouvez Ta Gueule, Coubertin. Salut Valentin.
Salut Tiffen.
De quoi ça cause ce soir sportif ?
Au programme ce soir, du tennis, du football américain, du hockey sur glace, c'est ça qui va nous amener au débat du soir sur la patinoire d'Angers, de savoir si elle est adaptée ou non pour les Ducs.
Avec du débat, des interviews, des chroniques et des reportages.
C'est ça.
Un vrai beau magazine sportif. A tout à l'heure, donc, dès 20h. Nous, on se retrouve demain, dès 19h, le sous-marin causera Quidditch. Ne faites pas les étonner. Merci à Pierre-Antoine et à Aminata. Merci à Thomas, qui a co-préparé cette émission. Et à Rémi pour la réalisation. Passez une très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Angers. Allez, bisous.
Trouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.